Un vestiaire sous tension, deux joueurs qui se battent, un Real Madrid qui est au bord du chaos à J-2 du Classico face au FC Barcelone. On en parle dans l'After Espagne.
RMC, After Espagne,
Karine Galli.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Espagne. L'Espagne tremble, Real Madrid est en crise. On va tout vous dire à J-2 de ce Classico. Le Barça qui pourrait être champion alors que le Real Madrid est en plein doute et que des joueurs se sont battus. Vous allez tout savoir de ce chaos du côté de la maison madrilène avec notre correspondant en Espagne qui a du travail en ce moment. C'est Edgar Grollo. Salut Edgar.
Salut Karine, salut tout le monde.
Ce qui est bien, c'est qu'au moins tu ne perds pas ton sourire, et des sourires, il n'y en a plus beaucoup dans le vestiaire du Real Madrid depuis de longues semaines. Un supporter madrilène est avec nous, j'imagine qu'il est dépité, désespéré par ce qu'il voit depuis plusieurs semaines et par l'actualité de ces derniers jours. C'est Hugo, supporter donc de la Maison Blanche. Salut Hugo.
Hola, buenas. Oui, effectivement, là, c'est très compliqué en ce moment, je vous le cache pas.
On va donc revenir effectivement sur les événements de ces derniers jours. Tu vas tout nous raconter, Edgar, parce qu'il y a plusieurs épisodes. On le sait, le Real Madrid est en crise. Le FC Barcelone pourrait être sacré champion d'Espagne ce dimanche, parce que ce dimanche, il y a le Classico, le match à ne pas perdre, ou le match à gagner, c'est à voir entre le FC Barcelone et le Real Madrid. On va revenir au commencement des problèmes. Tout a commencé mercredi. Il y a des tensions énormes au sein du vestiaire. Et puis, jeudi, il y a un joueur qui va finir à l'hôpital. Edgar, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé lors de ses deux premiers jours au sein du vestiaire du Real Madrid?
Ouais, il y a eu des tensions d'abord le mercredi entre Federico Valverde, qui, on le rappelle, c'est important pour le contexte, est l'un des capitaines du Real Madrid, c'est le vice-capitaine de l'équipe. Il y a eu des tensions entre Fede Valverde et le français Aurélien Tchouaméni. Il y a eu une dispute verbale le mercredi. Et puis, le jeudi, les joueurs arrivent à l'entraînement et Federico Valverde ne veut pas serrer la main d'Aurélien Tchouaméni. Pendant tout l'entraînement, il y a des tensions entre les deux joueurs, notamment des gros contacts pendant cet entraînement-là. La tension monte petit à petit et à la fin de l'entraînement, il rentre au vestiaire avec tout le monde et c'est à ce moment-là que ça dégénère. Il commence à avoir une altercation physique entre les deux joueurs. Les coéquipiers, évidemment, essayent de les séparer, mais... Federico Valverde, dans cette altercation physique, tombe, il se tape la tête et perd connaissance quelques secondes, et à ce moment-là il est amené à l'hôpital, et on a appris quelques heures plus tard qu'il souffrait quand même d'un traumatisme crânien, donc c'est pas rien.
Nous sommes jeudi soir, donc hier soir, un communiqué du Real Madrid tombe. Le Real Madrid qui nous dit qu'il a été décidé d'ouvrir des procédures disciplinaires à l'encontre de nos joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Tu en as parlé donc de ces deux joueurs qui sont dans la tempête. Communiqué donc laconique, ça c'est jeudi soir. Et puis derrière, un petit peu plus tard dans la soirée, c'est le joueur uruguayen Valverde qui va prendre la parole sur ses réseaux sociaux. C'est un message extrêmement long. Donc est-ce que tu peux nous en faire un petit peu la synthèse, Edgar, parce qu'on ne va pas tout lire, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut finalement retenir de cette prise de parole du joueur après le communiqué du club?
Ouais, on peut citer notamment cette phrase, hein. Pendant la dispute, j'ai accidentellement tapé une table. C'est comme ça qu'il explique qu'il aurait eu une coupure sur le front. Mais encore une fois, hein, une coupure sur le front, il est quand même allé à l'hôpital et il a un traumatisme crânien qui a été officialisé par le club et un repos de 10 à 14 jours imposé. Donc c'est vraiment un gros choc qu'il a eu. Il a perdu connaissance, qui précise aussi dans le communiqué, selon lui, il n'a jamais frappé Aurélien Tchouaméni et Aurélien Tchouaméni ne l'aurait jamais frappé, même s'il avoue qu'il y a eu une bagarre entre les deux hommes. Et ce qui est aussi intéressant dans le communiqué de Fede Valverde, c'est qu'il, globalement, en fait, il accuse un joueur d'être une taupe. Il accuse quelqu'un au sein du vestiaire d'être une taupe, d'avoir donné toutes les informations aux médias. Et donc, il dit tout simplement que l'ambiance au sein de ce vestiaire est anormale dans un club. Et il finit le communiqué en disant qu'évidemment, il acceptera toutes les sanctions possibles de la part du Real Madrid, puisqu'il y a des procédures disciplinaires contre les deux hommes.
Évidemment, l'affaire continue. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Les informations affluent d'Espagne. Edgar, là, maintenant, on parle potentiellement d'une sanction financière très importante pour ces deux joueurs.
Oui, pour l'instant, il n'y a pas eu de communication officielle du Real Madrid sur le sujet, si ce n'est que la procédure a été lancée. Aurélien Tchouaméni était de retour à l'entraînement ce vendredi, à 2 jours du Classico. Donc, si par exemple le Real Madrid avait décidé tout de suite d'écarter les 2 joueurs du groupe, il n'aurait pas été à l'entraînement. Donc, ça, c'est une première indication. Effectivement, les sanctions pourraient être financières. On suivra ça dans les prochains jours.
Edgar, tu nous as effectivement donc dépeint le tableau actuel du Real Madrid et du vestiaire qui est en feu, on le rappelle. Donc, du côté de Valverde, évidemment, il est out, le joueur est blessé, touché notamment à la tête. Par rapport aux dernières informations que tu viens de nous donner, on peut donc imaginer que Tchouaméni sera sur la pelouse du Camp Nou dimanche ?
Oui, on peut l'imaginer parce que déjà sur le plan sportif, et c'est pas Hugo, supporter du Real, qui va me contredire, il n'y a pas énormément d'options et Aurélien Tchouaméni est quelqu'un d'extrêmement important. S'il est de retour à l'entraînement ce vendredi matin, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas sur la pelouse du FC Barcelone ce dimanche.
Hugo, justement, toi qui es supporter du Real Madrid, amoureux de ce club, comment tu vis toute cette période ? On rappelle que ça sera une deuxième saison de suite sans trophée et qu'en plus de ça, la crise est totale.
Ben, c'est très très compliqué, sachant qu'en 2015, une histoire comme ça ne serait jamais poursuivie par de simples sanctions financières. Pour moi, ce n'est pas assez suffisant. Clairement, il faudrait qu'il soit évincé du club, que le Real Madrid redevienne l'institution qu'elle était auparavant, parce que là, c'est qu'un épisode parmi tant d'autres. Donc voilà, il faut vraiment que Pérez, pour moi, s'en aille et qu'on fasse place à quelqu'un de nouveau, mais quelqu'un qui pourrait reprendre les rênes de cette institution et du meilleur club du monde, clairement.
Alors pour toi, carrément, tu voudrais que les joueurs soient potentiellement virés pour faute grave, en fait, c'est ça ton idée ? C'est pas très
foot,
ça.
Tout à fait,
hein.
Parce que... Bah non, mais après, j'ai un peu lu la presse espagnole aussi et j'ai halluciné quand j'ai entendu notamment certains joueurs qui appelleraient Arbeloa à l'entraînement par le nom de Plo. C'est si vous voulez, le surnom que Piqué lui donnait en sélection à l'époque pour un peu se moquer de lui, quoi. Donc, s'il n'y a plus de respect aussi à ce niveau-là, pour moi, les sanctions, elles doivent être exemplaires.
On verra effectivement la suite, mais on imagine mal de toute façon le club virer les 2 joueurs parce que ça serait une perte financière énorme. On parlera peut-être de départ, mais dans le cadre d'un transfert avec toi, Edgar. Alors Edgar, est-ce que tu peux déjà nous faire un petit point, parce qu'on le sait que le vestiaire est fracturé, que l'ambiance est très mauvaise depuis plusieurs mois. Donc l'état des lieux actuellement à J-2 de ce Classico et on est en fin de saison, c'est quoi ?
Oula, alors c'est tension maximale et tension qui ne cesse d'augmenter depuis des semaines et depuis des mois. Il faut garder en fait tout le contexte en tête. Ça a commencé dès l'époque, l'ère Xabi Alonso, dès le mois d'octobre environ. On se souvient évidemment de la sortie de Vinicius au Classico qui, là aussi, hein, je reviens sur ce que disait Hugo, là aussi, Vinicius aussi aurait dû être plus sévèrement sanctionné parce qu'il n'avait pas vraiment eu de sanction, si ce n'est le fait de s'être excusé à tout le monde. Et tout ça, ça participe aussi à un climat où les joueurs se sentent permis de faire des choses qui ne sont pas acceptables. Et donc, à l'époque de Xabi Alonso, il y a un petit peu 2 groupes qui se sont formés. Il y avait, pour simplifier, hein, les pro-Xabi Alonso, ceux qui croyaient au projet. Parmi eux, notamment Aurélien Tchouaméni, qui était l'un des chouchous de Xabi Alonso. Il y avait aussi Kylian Mbappé qui s'entendait très bien avec lui et qui croyait en ce projet-là. Et puis de l'autre côté, des joueurs qui n'étaient pas satisfaits de Xabi Alonso, dont Vinicius, mais aussi Federico Valverde, qui se plaignait en plus de ça de sa situation personnelle, puisqu'il n'aimait pas jouer latéral droit. Donc déjà, ça a commencé un petit peu à fracturer le vestiaire. Ensuite, il y a des questions de leadership. Il y a beaucoup plus de joueurs, par exemple, dans le vestiaire qui voient Vinicius Junior comme un leader que Kylian Mbappé, même si les deux hommes entre eux s'entendent bien. Il y a eu ces derniers mois des tensions entre différents joueurs, des tensions verbales. Il y a eu une petite engueulade entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham à la mi-temps d'un match de Liga. Il y a eu en plus de ça d'autres embrouilles physiques, hein, avec notamment Antonio Rüdiger et Carreras. Donc c'est vraiment une situation électrique au sein de ce vestiaire, avec des joueurs qui ne s'entendent plus pour certains, des joueurs qui ne se parlent plus, qui ne se serrent même pas la main en arrivant à l'entraînement pour certains. Donc c'est une situation extrêmement, j'ai envie de dire, critique, et où, en plus de ça, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de capitaine à bord, il n'y a pas de chef du navire. Arbeloa, aujourd'hui, ce n'est pas un entraîneur qui est respecté par beaucoup de joueurs dans ce vestiaire-là, et donc ça aussi, ça va être quelque chose à régler pour le Real Madrid.
Le Real Madrid va terminer une deuxième saison sans club. Pour le Real Madrid, c'est inconcevable. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à un grand ménage cet été par rapport à ce tableau que tu nous as dépeint, qui est quand même très noir, avec énormément de tensions et avec des joueurs aussi parfois qui ne sont pas forcément à la hauteur de leur attente et de leur niveau?
Oui, on peut s'attendre à un ménage en tout cas. Maintenant, quand on voit la façon dont les problèmes de l'effectif ont été gérés sur les dernières années, c'est à se demander si le Real ne va pas continuer toujours à faire encore et toujours les mêmes erreurs. Tu as des manques déjà de qualité en défense, tu as des joueurs qui ne sont pas complémentaires au milieu de terrain et en attaque. Tu as en plus de ça ces groupes dans le vestiaire, il va falloir les gérer. Est-ce que tu fais partir certains joueurs? Est-ce que tu essayes de régler ça avec les mêmes joueurs? C'est une autre question. Tu as des joueurs d'expérience qui arrivent en fin de contrat. David Alaba, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger. Qu'est-ce que tu fais de ces joueurs-là? Vinicius, dont le contrat s'arrête à la fin de la saison prochaine. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Est-ce que tu arrives à le prolonger? Est-ce que tu le fais partir? Mais qui voudrait lui? Donc déjà, sportivement, il y a énormément de questions. Et puis ensuite, on va en parler, Karine. La grande question, c'est qui tu fais venir pour remplacer Arbeloa et pour faire le ménage dans la maison et mettre de l'ordre dans tout ça? Ça va être l'un des métiers les plus difficiles dans le monde du football.
On va en parler évidemment du futur entraîneur du Real Madrid, de celui qui pourrait revenir au Real. Hugo, toi, selon ton œil de supporter, c'est quoi la priorité? C'est de changer certains éléments du vestiaire ou c'est vraiment d'avoir un entraîneur qui soit fort et qui soit au-dessus justement de ce groupe qui est évidemment composé de beaucoup de fortes têtes et de beaucoup de caractères et d'égo?
Si on y va par ordre de priorité, effectivement, commençons par l'entraîneur. Après, Arbeloa, il a été là un petit peu en intérim. Il ne faut pas non plus lui rejeter forcément toute la faute. Mais oui, il faut commencer par l'entraîneur, effectivement, trouver quelqu'un qui serait capable de serrer la vis un petit peu et puis de remettre les choses dans l'ordre avec un système bien défini cette fois-ci. Et puis après, ensuite, effectivement, changer certains joueurs à certains postes. C'est vrai que depuis aussi, on va dire, on va pas se mentir, depuis le départ de Kroos, des joueurs comme Kroos, Modric, on n'a plus cette aura dans l'équipe des joueurs respectés, je veux dire, ne serait-ce que par leur façon de jouer, etc. On n'a plus ce genre de joueurs, donc effectivement, peut-être trouver des profils de ce type pour remettre le Real à flot, quoi.
On va parler d'un homme, parce qu'évidemment, ce nom revient depuis plusieurs semaines et sur ces dernières heures, il revient avec insistance. C'est José Mourinho, lui qui a déjà entraîné évidemment le Real Madrid, qui a fait briller le Real, qui est un entraîneur à poigne. Edgar, est-ce que finalement, ça peut être le sauveur? Est-ce que c'est l'homme qu'il faut pour reprendre ce Real Madrid qui est quasiment en ruine?
C'est vrai qu'on parle de lui de plus en plus depuis quelques semaines et on parlait beaucoup de lui ces derniers jours. Et là, le timing de ces événements pousse beaucoup de personnes ici à Madrid à penser que ça peut être l'homme de la situation, ou en tout cas que c'est bien peut-être le seul entraîneur assez fou pour avoir envie de mettre les pieds là-dedans et de remettre de l'ordre dans la Maison Blanche. Donc c'est vraiment, quand tu vois tout ce qui se passe là, tu te dis évidemment José Mourinho, il va arriver, il va recadrer 3, 4, 5, 6, 10 joueurs s'il le faut. Il n'aura pas peur de dire à tout le monde de changer son attitude. Cette situation va en faveur, je pense, de la candidature de José Mourinho. En tout cas, s'il y a bien une chose qui est sûre et certaine, mais bon, je pense que c'était déjà une évidence avant, c'est qu'il va falloir un coach d'expérience à cette équipe du Real Madrid. Ça élimine la thèse déjà de continuer avec Alvaro Arbeloa, parce que là, il a complètement perdu son vestiaire. Et comme a dit Hugo très justement, c'est vrai qu'on ne peut pas lui remettre toute la faute. C'est sa première équipe professionnelle et lui, il est arrivé en cours de saison. Même si je pense qu'il n'a pas fait un très bon boulot, tout n'est pas de sa faute. Tous les problèmes du Real Madrid ne sont pas de sa faute. Mais évidemment, il va falloir un coach d'expérience. Ça peut être José Mourinho. Ça peut être Jürgen Klopp s'il accepte de réentraîner une équipe. Et ça peut être, pourquoi pas, Didier Deschamps, qui lui aussi a beaucoup d'expérience et a beaucoup d'expérience avec les égos. Mais le favori aujourd'hui et le nom qui revient le plus, c'est bien celui de José Mourinho.
Hugo, pour toi, ça serait l'évidence de faire revenir José Mourinho. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un retour du Portugais. Est-ce que pour toi, c'est celui qui pourrait essayer de relever cette équipe qui est en grande difficulté?
Alors, l'évidence, je ne sais pas, mais oui, ça pourrait être peut-être l'homme. Après, c'est vrai qu'Edgar vient de parler de Didier Deschamps. Ça me paraît assez fou aussi comme idée, mais ça resterait un profil, on l'a bien vu avec l'équipe de France pendant toutes ces années, un profil voilà, qui met un système en place et qui pourrait, ne serait-ce que pour au moins on va dire, à quinquennat, remettre le Real à flot, quoi.
Donc, pour toi, j'ai l'impression que tu serais plus tenté par Didier Deschamps, donc une nouveauté, que par un retour de José Mourinho.
Bah, on va dire que, dans la logique, on va partir du principe que ce sera Mourinho, voilà, parce que c'est un peu plus logique, mais pour moi, ce serait pas déconnant, effectivement, de faire appel à notre Didier national.
Edgar, on en avait parlé hein, sur RMC, effectivement, de cette possibilité. Il y avait une shortlist, c'était une information à RMC Sport où Didier Deschamps était effectivement une option. Est-ce que cette option s'est réchauffée? Est-ce que c'est plutôt refroidi? Parce que Didier Deschamps, il regarde aussi la situation actuelle du Real Madrid, s'il est potentiellement intéressé, et voit que là, bon voilà, c'est pas la meilleure période du Real.
Bon, du côté de Didier Deschamps, je sais pas, et je pense qu'il est surtout évidemment concentré sur la Coupe du Monde, mais du côté du Real Madrid, j'ai envie de dire que par rapport à Didier Deschamps, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est pas le favori, mais c'est un nom qui existe pour eux, qui est une possibilité, qui a été coché comme un profil qui pourrait les intéresser. Maintenant, évidemment, c'est plus avancé avec José Mourinho, et je pense que Didier Deschamps a une chose qui va vraiment en sa défaveur, au-delà du timing de la Coupe du Monde, parce que là on se dit quand même qu'il y a urgence à changer et à apporter du neuf dans ce Real Madrid là. Au Real Madrid, et surtout sur les coachs, ils aiment bien, ils aiment énormément, ils aiment beaucoup aller avec des personnes qui connaissent déjà, avec des personnes qui connaissent la maison. José Mourinho, il connaît la maison, il a un passage certes controversé, mais il a un passage ici et il sait comment ça se passe au club. Il connaît déjà Florentino Pérez. Didier Deschamps, c'est vrai qu'il a aucun historique direct avec le Real Madrid. Alors oui, il connaît des joueurs français, mais en Espagne et surtout à Madrid, c'est vrai que parfois on a tendance vraiment à favoriser les gens qui connaissent déjà la maison.
2010-2013, hein, c'était le premier passage en tant qu'entraîneur du Real Madrid pour José Mourinho, qui est aujourd'hui engagé avec le club de Benfica. Vous êtes dans l'After Espagne, on parle du chaos actuellement que traverse le Real Madrid alors que nous sommes à J-2 du Classico sur la pelouse du FC Barcelone. Vous suivez l'After Espagne avec Edgar Grollo, notre correspondant en Espagne, et Hugo, supporter du Real Madrid. Le Real Madrid qui est en pleine crise, vous le savez, il y a eu une baston entre Aurélien Tchouaméni, le français, et Valverde, l'uruguayen. Il y a une situation de crise, le Real va faire une deuxième saison sans titre. Et puis, il y a en plus ce scénario complètement sordide quand vous êtes supporter du Real Madrid, c'est que dimanche, eh bien, le FC Barcelone pourrait être sacré lors de ce Classico. C'est pas compliqué, il suffit d'un nul ou d'une victoire pour les Blaugrana. Et ils seront sacrés devant leurs meilleurs ennemis. Hugo, ça c'est le pire pour un supporter de voir l'équipe rivale être sacrée.
En termes de scénario, là, je pense qu'on ne pouvait pas tomber plus bas. Ça va être très compliqué, malheureusement. Et pourtant, je vois mon équipe tout le temps gagner. Là, ça sent quand même la défaite ou le nul qui, effectivement, donnerait le titre au Barça. Donc, autant vous dire que fin de saison catastrophique à tous les niveaux.
Ça sera le troisième classico de la saison. Au match aller, c'est le Real qui avait gagné 2-1. Puis il y a eu cette nouvelle victoire du Barça. C'était en finale de la Supercoupe d'Espagne. Et donc ce match retour, ça sera dimanche sur la pelouse du FC Barcelone. Edgar, est-ce que le classico est joué d'avance quand on voit les dynamiques et quand on voit surtout ce qui vient de se passer là sur ces derniers jours avec cette crise profonde qui éclate au grand jour?
Jouer d'avance, non, parce que déjà il y a des absents du côté du Barça et parce que mine de rien, même si c'est pas une équipe qui marche bien, le Real Madrid a des individualités et que donc sur un match, tu sais jamais ce qui peut se passer, même si l'année dernière le triplé de Mbappé n'avait pas suffi à ne pas perdre ce match. Maintenant, j'ai quand même du mal à imaginer le Real Madrid gagner à Barcelone. Et en tout cas, ce classico garde toute sa saveur, garde tout son enjeu, même si on sait tous que le FC Barcelone va gagner le championnat. Cette possibilité pour les Barcelonais de gagner le championnat face à leurs rivaux au Camp Nou, comme ça, et en plus, j'ai envie de dire, mais de faire plonger le Real Madrid encore plus dans la crise quelques jours après ce chaos qui a un petit peu emporté le club. Le scénario est juste hitchcockien et je pense que pour les supporters du Barça, ce serait la semaine de rêve. Pour les supporters du Real et malheureusement pour Hugo, ce serait le cauchemar absolu. Et donc, ce classico, il a une saveur particulière, très différente. C'est vrai que ce n'est pas forcément le plus passionnant au niveau de la rivalité sportive, mais par contre, au niveau de la rivalité entre les deux clubs et de ce que symbolise ce classico, là, il va être passionnant à suivre, évidemment. Et je pense, surtout pour les suiveurs du Barça.
Effectivement, c'est vrai que nous, on est observateurs du football, on n'est pas supporters du Real ou du Barça. Il nous manque quelque chose quand même, c'est qu'il y a les meilleurs qui seront absents. Kylian Mbappé est absent, Lamine Yamal est absent, Valverde est donc absent suite à ce traumatisme crânien. Hugo, toi, tu arrives à avoir quand même un regard où tu espères à chaque fois avoir les meilleurs joueurs, ou toi, tu t'en fous finalement en tant que supporter du Real, une victoire 1-0 et un CSC, tu prends?
En tant que supporter du Real, j'aurais même envoyé la Castilla si j'avais été entraîneur. Sauf que malheureusement, ils ont une finale ce week-end, donc ça ne va pas être possible. Mais non, pour parler sérieusement, j'espère quand même qu'il va tenter quelque chose, malgré effectivement l'absence de tous les joueurs que vous avez cités, Karine. Je pense que voilà, il va pas non plus baisser les bras complètement. On reste le Real Madrid, donc voilà, il y a un maillot à porter fièrement. Mais bon, on connaît tous malheureusement l'issue au moins du championnat. Donc voilà, mais à la Madrid.
Le championnat est effectivement promis au FC Barcelone. Comme l'an dernier, on rappelle, hein, le Classico, ça sera à 21h au Camp Nou. Barça-Real. Edgar, pour terminer, ça va être une deuxième saison sans titre. Il y a eu des déconvenues tout au long de la saison. Il y a eu des éliminations aussi en Ligue des Champions. Hugo, on a parlé un petit peu plus tôt. Florentino Pérez, effectivement, il a été rechoisi par les socios, mais c'est un homme âgé, c'est un vieux monsieur. Est-ce qu'il est encore sûr de terminer son mandat vu la situation actuelle et ce sentiment qu'il manque peut-être un vrai patron à la barre du Real?
Ouais, ça lui est arrivé dans les années 2000 de partir plus tôt que prévu quand ça se passait mal. Est-ce que ce sera à nouveau le cas? C'est très difficile à dire, mais en tout cas, c'est un homme qui est contesté, qui est critiqué à Madrid. Le problème du Real, et je le répète souvent dans nos différentes émissions, c'est que tout se concentre sur une seule personne. Médiatiquement, la direction du Real Madrid, c'est Florentino Pérez et c'est tout. Voilà, les autres noms, à part les fans du Real, personne ne les connaît. Et donc, par exemple, si tu demandes à quelqu'un qui suit de loin le foot, il connaîtra presque plus, j'ai envie de dire, un Luis Campos qu'un José Ángel Sanchez. Et en fait, les autres membres de la direction du Real Madrid, c'est vrai que médiatiquement, ils prennent peu de place, surtout il s'exprime très peu, et donc toute l'attention va toujours autour de Florentino Pérez. Donc quand ça se passe bien, on a l'impression que c'est un génie, quand ça se passe mal, tout est de sa faute. Là, effectivement, il y a la question de l'autorité et du respect du club, et c'est là, je pense, que les supporters l'attendent le plus. Je pense qu'il y a énormément de supporters, et Hugo, corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y a énormément de supporters qui, ces dernières années, ont eu l'impression que Florentino Pérez se concentrait sur le fait de rénover le stade, d'amener la NFL et les concerts de Taylor Swift au Bernabéu, mais pas sur la construction de l'effectif. Et je pense que ça, c'est une frustration pour les supporters, et là, ils attendent que Florentino Pérez vraiment restructure l'effectif cet été, avec évidemment le reste de la direction, mais la responsabilité, comme j'ai dit, elle retombe toujours sur lui, et aussi et surtout qu'il remette de l'autorité et qu'il vienne sanctionner les joueurs qui dépassent les bornes et vienne remettre, on va dire, on parle toujours de l'institution Real Madrid, mais remettre l'institution Real Madrid au centre des débats.
Hugo, si je comprends bien ce que dit Edgar, c'est que finalement, Florentino Pérez a plus pensé au business, à faire rentrer de l'argent dans les caisses, plutôt que de construire une vraie équipe compétitive, même si on rappelle que quand même, au niveau sportif, il avait cette obsession de faire Kylian Mbappé et qu'il a fini par le faire. Il va terminer sa deuxième saison en tant que joueur du Real, le Français.
Oui, bien sûr. Après, ça reste un grand, grand businessman en Espagne. Il est respecté pour ça avant d'être président du Real Madrid. Mais voilà, il y a aussi, vous l'avez dit Karine, tu l'as dit Edgar, c'est vraiment l'âge aussi qui fait qu'il est plus sur le business maintenant que sur le côté sportif. Moi personnellement, mon avis, c'est qu'il est un petit peu dépassé par les événements. Alors je me trompe peut-être, mais voilà, toutes ces sorties médiatiques, etc., ça se serait pas forcément passé comme ça il y a une dizaine d'années.
Le Classico, ça sera donc dimanche, on le rappelle, entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Dernier mot, Hugo, un prono?
Allez, on va être quand même joueur malgré tout. Et puis, moi, je vois un partout.
Ah oui, oula, bah, joueur, t'es pas non plus. Je me suis dit qu'il allait nous proposer une manita du Real, enfin un truc de dingue. Bon,
ah bah
partout,
non.
C'est quand même largement faisable, quoi. C'est pas non plus complètement dingue. Edgar, ton prono pour ce classico qui se jouera au Camp Nou, on le rappelle, coup d'envoi 21h.
Moi, je pense que ça va quand même être accroché. Je vais dire 3-2 pour le Barça. Et pour rigoler un petit peu, je vais dire doublé de Mbappé.
Écoute, on suivra ça évidemment dimanche soir. On sera évidemment branché sur RMC et on suivra ce match ô combien important pour tous les supporters et pour tous les amoureux de foot avec toi, Edgar Grolot. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir été avec nous. Courage pour cette fin de saison. Et il faudra tourner la page et faire un grand ménage cet été. Merci beaucoup, Edgar. On te retrouve tout au long, évidemment, du week-end également pour nous donner toutes les dernières informations sur cette crise qui actuellement secoue le Real Madrid. Merci à tous de nous avoir suivis dans l'After Espagne que vous retrouvez évidemment sur RMC.
RMC After Espagne.